Troisième épisode. 1. Le coup de main. Huit hommes aux barbes hirsutes, à la mine patibulaire, étendus paresseusement autour d'un grand feu de broussailles, fumaient en silence de courtes pipes de terre bleue, pendant qu'un mouton, embroché d'une longue baguette posée en équilibre sur deux branches fourchues, achevait de se dorer devant la flamme. L'endroit où il se trouvait était une gorge sauvage de la Sierra californienne qu'entouraient de toutes parts des amoncellements de rocs abrupts couverts d'une maigre végétation. D'une caverne s'échappait un mince filet d'eau vive, près duquel étaient entassées pêle-mêle des bouteilles de grès pleines de vin et de whisky, des carabines, des sabres, des pioches et des pelles, des cordages et toutes sortes d'objets hétéroclites. On eût pu savoir, de prime abord, si l'on se trouvait en présence d'un campement de chercheurs d'or ou d'un repaire de bandits. C'était la seconde hypothèse qui se fût trouvée exacte. Le Black Canyon, c'était le nom dont le ravin avait été baptisé à cause de la sombre couleur de ses rochers de basalte, servait depuis longtemps de retraite à une bande de ces rôdeurs que l'on appelle des tramps. Les tramps sont les trimardeurs du Nouveau Monde, errant sans cesse d'état en état, travaillant quelques semaines dans les mines ou dans les grandes exploitations agricoles, pour repartir ensuite au hasard, suivant le gré de leurs caprices. Mais en France, les cheminots sont presque toujours des vagabonds inoffensifs, ne se livrant qu'à des rapines insignifiantes. Il n'en est pas de même en Amérique, où les villes sont souvent à une énorme distance l'une de l'autre, et où il existe d'immenses espaces déserts, et les tramps forment fréquemment des troupes d'audacieux voleurs de grands chemins. L'autorité centrale se trouve à peu près désarmée contre eux. Ils arrêtent les trains, pillent et incendient les fermes isolées, détroussent les voyageurs et, dans les immenses solitudes de l'Ouest, constituent un redoutable péril. Quelquefois même, ils forment des associations parfaitement organisées qui terrorisent et rançonnent toute une région. C'était à une de ces associations qu'appartenaient les huit personnages en ce moment groupés dans le Black Canyon. Tous portaient le même costume. Chapeau de feutre à large bord, veste et culotte flottante de velours à côtes ou de gros drap et fortes bottes montant jusqu'aux genoux. Sans oublier des ceintures de couleurs voyantes dans lesquelles étaient passés des revolvers de gros calibre et de longs couteaux appelés Bowie Knife. Tous semblaient attendre avec impatience que le rôti fût à point. « Je crois que nous pouvons nous mettre à table », déclara tout à coup un des tramps. Un homme de carrure athlétique et dont la barbe grise lui descendait jusqu'à la ceinture. Pour mon compte, je me sens une faim de tous les diables. Donnant l'exemple, Slug, c'est ainsi que se nommait l'homme à la longue barbe, tira son Bowie knife, se tailla une large tranche de mouton saignant qu'il étala sur un morceau de biscuit et se mit à manger à belles dents. Les autres l'imitèrent et bientôt, le corps de l'animal ne présenta plus qu'une carcasse presque aussi bien nettoyée que si les grands vautours roux qu'on voyait tournoyer au-dessus des cimes, s'était chargé de la besogne. Quand tout le monde se fut rassasié et que la bouteille de whisky eut circulé de main en main, on ralluma les pipes, chargées de ce dur tabac de bûcheron qu'on appelle log cabin, et l'on causa. « Je crois, dit Slug, en observant le ciel où s'amassaient de gros nuages cuivrés, qu'avant ce soir il tombera une fameuse averse. Ah, ce serait une veine !»« Pourquoi cela ?» fit un jeune Trump aux cheveux rouges qui répondait au nom de Jackson. « Parce qu'une bonne pluie doublerait nos chances, » répondit Slug sentencieusement. « S'il pleut seulement 2 heures, la fondrière du défilé deviendra impraticable. »« Alors, c'est pour aujourd'hui le grand coup ?» demanda un autre. « Tu as reçu des ordres ?»« Oui, » fit Slug en tirant orgueilleusement de sa poche un papier graisseux couvert de signes hiéroglyphiques. « Voici une lettre qu'un cow-boy m'a remise ce matin pendant que je faisais ma tournée dans la montagne. Elle est signée de la main rouge et elle émane du chef. » Il y eut à ces mots un profond silence, fait de respect et de curiosité. Les 7 tramps s'étaient rapprochés de Slug, impatients de savoir. « De quoi s'agit-il exactement ?» demanda Jackson. « Hier et ce matin même, reprit Slug, gonflé de son importance, je n'aurais rien pu vous dire. Aujourd'hui, c'est différent. » Je vais vous donner tous les détails. Vous avez vu passer, il y a une quizaine de jours, un chariot attelé de 4 chevaux et escorté par une douzaine de cow-boys armés et de policemen à cheval. Oui, répondit Jackson, et nous nous sommes demandé pourquoi tu nous défendais de l'attaquer. Pour que ce chariot fût ainsi escorté, il devait contenir quelque chose de précieux.
Il ne contenait rien du tout. Seulement, aujourd'hui, il repasse par le même chemin dans le défilé au pied du Black Canyon.
Et aujourd'hui, suivez-moi avec attention, il est chargé d'or.
Les prunelles des bandits étincelèrent de convoitise sous leurs sourcils en broussailles.
Oui, reprit Slug, il contient le produit des fermages de trois grands domaines situés de l'autre côté de la Sierra et qui appartiennent, vous le savez, au milliardaire William Dorgan, celui qui partage avec le fameux Fred Jogel les trusts du maïs et du coton. Oh, je suis renseigné. Je sais même que c'est un des fils de William Dorgan qui est à la tête de l'escorte.
Oh, quant à celui-là, fit un des bandits en faisant le geste d'épauler une carabine.
Eh bien non, c'est ce qui te trompe, s'écria Slug avec vivacité. Il faut faire en sorte que Joe Dorgan ne reçoive pas la moindre blessure. Il doit être pris vivant. Il paraît que sa capture est la partie la plus importante de l'expédition. Il vaudrait même mieux laisser partir l'argent à les policemen que de ne pas s'assurer de sa personne. Est-ce compris ?
Les sept Trumps firent de la tête un signe d'assentiment.
Mais ils demeuraient songeurs.
À ce moment même, quelques larges gouttes d'eau volèrent dans l'air. Et bientôt, une grosse pluie d'orage se mit à tomber. Les Trumps durent chercher un refuge dans la grotte qui leur servait de magasin. Là, les carabines et les revolvers furent minutieusement vérifiés et chargés. Et Slug s'assura par lui-même que chacun de ses hommes possédait une provision suffisante de cartouches. La pluie était devenue torrentielle. Du feu, il ne restait plus que quelques tisons noircis que les cascades, tombées du haut du rocher, emportaient vers le bas de la vallée. Slug se frottait les mains.
« Toute cette eau-là, s'écria-t-il, va s'amasser dans les fondrières du défilé. Le chariot ne sortira jamais de là. »
Tout à coup, dominant le bruit de la rafale, trois coups de carabine retentirent, longuement répercutés par les échos de la montagne. Slug était devenu légèrement pâle.
« Le signal des chefs, murmura-t-il. Il faut que je m'en aille. »«
Quand reviendras-tu ? » demanda Jackson, quelque peu ému lui aussi.
« Je ne sais pas. Attendez-moi. Ne faites rien avant mon retour. »
En un clin d'œil, il avait mis en bandoulière sa carabine, jeté sur ses épaules un ample manteau mexicain et avait rabattu son chapeau sur ses yeux. Puis il se glissa dans l'entrebâillement des rocs basaltiques et disparut. Resté seul et regardant tomber la pluie qui embuait d'un voile grisâtre le paysage désolé, les Trumps demeurèrent silencieux, en proie à une vague inquiétude. Chacun d'eux éprouvait le besoin de parler, et nul n'osait prendre la parole le premier. À la fin, un vieux Trump, nommé Bishop, dit d'une voix lente.
« J'ai connu, il y a bien des années, un Dorgan qui était aussi le fils d'un milliardaire. Mais il ne se nommait pas Joe, il s'appelait Harry. »«
Ce n'est pas le même, » fit Jackson, « c'est son frère. Je sais, moi, que le milliardaire William Dorgan a deux fils, Harry et Joe. »«
C'est Harry que j'ai connu, l'ingénieur. Il dirigeait à ce moment l'usine électrique de Jorgel City où j'ai travaillé. » C'était un brave gentleman. Ça m'ennuierait qu'il arrive à malheur à son frère.
Puisque précisément il est ordonné de ne pas lui faire le moindre mal, tu peux dormir tranquille.
La conversation en resta là et personne n'essaya de la ranimer. La nuit commençait à venir et la pluie ne cessait pas. Les Trumps se demandaient avec un étrange malaise ce qu'était devenu leur chef. Et leur inquiétude allait croissant lorsque Slug parut. Il était ruisselant de pluie, des pieds à la tête. Mais il avait la mine radieuse.
« Tout va bien, s'écria-t-il, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut pourtant casser la croûte, l'attente peut être longue. Défoncez une boîte de conserve, mangez un morceau de bœuf sur le pouce, un coup de whisky et en route. »
Slug fut ponctuellement obéi. En un clin d'œil, les Trumps furent restaurés, équipés, prêts à partir. Le retour de leur chef et la bonne humeur dont ils faisaient preuve les avaient animés d'une nouvelle ardeur. Cependant, personne n'avait osé lui poser de questions. Dans l'eau jusqu'à mi-jambe, les huit bandits suivirent quelque temps la pente raboteuse du Black Canyon, que la pluie avait rendue semblable au lit d'un torrent. Ils franchirent un amas de rochers bizarrement tourmentés et débouchèrent dans un défilé bordé à droite et à gauche par d'imposantes murailles de basalte.
« Il n'y a pas d'autre chemin, » déclara Slug. « Ils sont obligés de passer par le défilé, et là, nous les tenons. » Quand ils se seront engagés dans la fondrière, je les défie de faire un pas de plus. C'est ce moment-là qu'il faut attendre pour attaquer. Alors, vous ouvrirez le feu en tirant d'abord sur les chevaux.
Ouais, fit Jackson. Mais comment reconnaîtrons-nous Joe Dorgan?
Il pourrait bien arriver que, sans vouloir le faire exprès...
Jamais ! S'écria Slug, embarrassé de l'objection. Je ne vois pas trop comment faire. Il faudrait tâcher de le reconnaître à son costume.
Il me semble qu'il y a un moyen bien simple, c'est de tirer d'abord sur les policemen. Il n'y a pas moyen de se tromper à cause des uniformes.
Oui, c'est cela. Ah, encore une chose que j'oubliais. Deux envoyés de la main rouge prendront peut-être part à l'affaire. Il faudra faire en sorte de ne pas tirer sur eux.
Slug répéta plusieurs fois à chacun de ses hommes en particulier ses minutieuses recommandations. Puis il les disposa lui-même, chacun dans une anfractuosité du roc, où, à travers la profonde obscurité encore augmentée par la pluie, il était impossible de les apercevoir.
Une heure s'écoula lentement. Dans les trous où ils étaient embusqués, les tramps sentaient la fatigue et l'engourdissement s'emparer d'eux. Slug était prodigieusement énervé. Il remarquait avec colère que la pluie tombait un peu moins fort.
« Quelle guigne ! » grommelait-il entre ses dents. « Pour peu que le convoi tarde encore, il fera clair de lune et l'eau aura eu le temps de s'écouler. »
L'impatience commençait à le gagner quand, tout à coup, il distingua le bruit sourd d'un galop de chevaux. Un quart d'heure encore s'écoula. Le bruit se rapprochait. Une masse sombre, flanquée de deux lueurs rougeâtres, qui étaient celles des lanternes, se silhouetta dans la brume. Le chariot était devenu nettement visible, ainsi que les 12 policemen à cheval qui l'escortaient. Le conducteur, jurant et maugréant contre cette route impossible, fit entrer ses chevaux dans l'ornière que la pluie avait rendue semblable à une mare. Mais quand le chariot eut atteint l'endroit le plus profond, ses lourdes roues s'embourbèrent, il fut impossible de le faire avancer.
« Nous ne sortirons pas de là, » grommela le conducteur. « Nous sommes dans la vase jusqu'au moyeu. »
Comme si cette phrase eût été un signal, 8 coups de feu éclatèrent simultanément. 3 des policemen roulèrent à terre, le crâne traversé d'une balle. D'autres étaient plus ou moins grièvement blessés.
« Les tramps, les bandits de la main rouge, au secours, nous sommes perdus !»
Tous ces cris éclatèrent confusément. Il y eut quelques instants d'un terrible désarroi qu'augmentait encore les hennissements d'un cheval blessé à mort. Mais une voix vibrante domina le tumulte. C'était celle d'un cavalier qui s'était tenu jusqu'alors derrière le chariot.
« Courage, mes amis » criait-il. « Si nous faiblissons, nous serons exterminés jusqu'au dernier. Retranchons-nous derrière la voiture et ripostons vigoureusement. »
Les bandits firent à ce moment une seconde décharge. Mais les policemen, suivant le conseil du cavalier, qui n'était autre que Joe Dorgan, avaient eu le temps de se réfugier derrière le chariot. Aucun d'eux, cette fois, ne fut atteint. Les policemen tirèrent à leur tour dans la direction d'où étaient partis les coups de feu des bandits. Un cri de douleur répondit à l'explosion des carabines. C'était le vieux Bishop qui, frappé en plein cœur, venait de dégringoler du trou de rocher où il était embusqué.
« Un de moins, » dit Joe Dorgan. « Tenez bon. Nous finirons par avoir le dessus. Ils sont moins nombreux que nous. »
La bataille se continua furieusement. Mais les Trumps, qui, sur l'ordre de Slug, demeuraient toujours cachés, avaient sur leurs adversaires un avantage considérable. Ils visaient à coup sûr, tandis que les policemen ne tiraient qu'aux jugés et n'osaient quitter le rempart protecteur qu'était pour eux le chariot. La lutte aurait cependant pu se prolonger si Slug ne s'était avisé d'une tactique nouvelle. Un Trump, c'était Slug lui-même, bondit tout à coup du fond des ténèbres et plongea son body knife jusqu'au manche dans la gorge d'un des policemen. Et presque aussitôt, il brûla presque à bout portant la cervelle d'un autre. Puis, il se rejeta en rampant vers le rocher.
« Mes amis, s'écria Joe Dorgan, abandonnons l'argent et battons en retraite. »
Les hommes de l'escorte ne demandaient certes pas mieux que d'obéir. Mais tous leurs chevaux avaient été tués ou blessés, et la fuite dans ces conditions était presque impossible. Ils la tentèrent pourtant. À ce moment, il n'était plus que 5, en comptant Joe Dorgan. Dès le début du combat, les lanternes avaient été cassées. La scène du drame n'était plus éclairée que par la lueur livide et intermittente des coups de carabine. Les fugitifs espéraient s'échapper à la faveur des ténèbres. Deux d'entre eux, passant les premiers, se glissèrent hors de l'abri protecteur du chariot. Ils n'avaient pas fait deux pas qu'ils roulaient à terre, frappés d'une balle en plein front.
« En avant !» cria Slug. « Ils ne sont plus que 3 !»
Les Trumps, à cette injonction, dégringolèrent de leur trou, le body knife d'une main, le revolver de l'autre. En un clin d'œil, les fugitifs furent cernés. 2 coups de revolver retentirent. C'était Jackson qui venait de brûler la cervelle aux 2 policemen. Joey Dorgan
était demeuré seul. Le Browning au poing, il se battait comme un lion. Il tua un des Trump qui essayait de le saisir à bras le corps et il blessa Jackson à l'épaule. Mais il était fatal qu'il succombât sous la force du nombre. 10 mains robustes lui saisirent les bras et l'immobilisèrent. Son Browning lui fut arraché et on le ligota solidement. « Misérables assassins » hurlait-il en se débattant. « Tuez-moi donc, si vous l'osez !» On ne daigna pas lui répondre. « Maintenant, s'écria Slug, la bataille est gagnée. Qu'on donne quelques bons coups de body knife aux blessés pour leur ôter l'envie de témoigner en justice contre nous. » « C'est déjà besogne faite, » grommela un vieux Trump à la barbe grise, dont les mains dégouttaient de sang. « Maintenant, il s'agit d'éventrer le coffre aux dollars. » Les bandits entouraient déjà le chariot lorsque deux cavaliers surgirent brusquement au milieu du défilé. À la clarté de la lune qui, la pluie maintenant passée, se dégageait d'entre les nuages, les Trumps virent que les deux nouveaux venus avaient le visage recouvert d'un masque. Respectueusement, Slug s'était précipité à leur rencontre et tenait la bride de leurs chevaux. « Les ordres de la main rouge ont été fidèlement exécutés, » dit-il d'un ton plein d'humilité. « C'est bien, » fit un des hommes. Et il donna à voix basse quelques ordres à Slug, en même temps qu'il lui remettait un paquet assez volumineux. Slug défit le paquet. Il contenait un flacon carré et un tampon d'ouate. Slug imbiba soigneusement le tampon du liquide contenu dans le flacon. Puis, s'approchant sournoisement, il l'appliqua sur le visage du prisonnier. Joey Dorgan poussa un gémissement sourd. L'odeur fade du chloroforme montait à ses narines. Il perdit connaissance. Aussitôt, Slug et un des hommes masqués l'emportèrent avec précaution et l'attachèrent solidement sur un cheval que les émissaires de la main rouge avaient eu soin d'amener avec eux et qu'ils avaient laissé un peu en arrière. Tout cela s'était fait avec une rapidité extraordinaire. Sous les regards stupéfaits des Trumps, si intimidés par la présence des grands chefs qu'ils en avaient oublié le chariot au dollar. Les deux hommes masqués s'apprêtaient à remonter à cheval lorsque Slug crut devoir demander des ordres au sujet du chariot. « Sotte question !» fit avec impatience un des inconnus. « Que le partage ait lieu suivant les règles ordinaires. Nous ferons prendre en temps voulu ce qui revient à la main rouge. Et surtout, pas d'erreur dans les comptes. Nous connaissons le chiffre exact. » Les inconnus étaient remontés en selle. Plaçant au milieu d'eux le cheval sur lequel était attaché le corps inerte de Joey Dorgan, ils disparurent au grand galop par l'extrémité nord du défilé. Après avoir chevauché 3 heures de suite dans le plus profond silence par les chemins défoncés de la montagne, ils atteignirent enfin une route régulièrement empierrée et munie de bornes odométriques et de poteaux indicateurs. Leurs chevaux étaient blancs d'écume quand ils mirent pied à terre devant une misérable auberge construite avec des troncs d'arbres mal équarris. Un valet silencieux vint prendre leurs chevaux après les avoir aidés à transporter le corps de Joey Dorgan sur un banc de pierre près de la porte. Aucune lumière ne paraissait aux fenêtres de la bicoque. Les deux hommes, qui maintenant avaient tiré leurs masques, faisaient les 100 pas dans la cour en causant à mi-voix. 1 heure s'écoula. Les émissaires de la main rouge commençaient à donner des signes d'impatience quand le bruit d'une auto se fit entendre dans le silence de la nuit. 10 minutes après, une superbe 100 chevaux, à la luxueuse carrosserie, aménagée pour de longs voyages, stoppait devant l'auberge, tous phares allumés. De même que le domestique qui avait pris soin des chevaux, le chauffeur ne prononça pas une parole. Ce fut silencieusement que les deux bandits et leurs prisonniers, toujours inanimés, furent installés dans l'intérieur de la voiture, qui partit aussitôt en 4e vitesse. 3 jours après, la même auto mystérieuse, maintenant couverte d'une épaisse couche de boue et de poussière, entrait dans New York un peu avant minuit. Et, après avoir parcouru à petite allure la 10e avenue, stoppait devant une luxueuse propriété entourée de hautes murailles et fermée par une grille de fer ouvragée. Sur une des colonnes qui soutenait la grille était scellée une plaque de marbre noir avec cette inscription en lettres d'or. « Docteur Cornelius Kram ». Le chauffeur donna 3 coups de trompe régulièrement espacés. La grille s'ouvrit aussitôt à 2 battants et l'auto s'engouffra dans l'intérieur de la propriété. Le lendemain, la nouvelle du drame dont le désert du Black Canyon avait été le théâtre éclatait comme un coup de foudre à New York, où le milliardaire William Dorgan et ses fils étaient particulièrement estimés. Nous reproduisons à titre de document un des nombreux articles que publia le New York Herald à cette occasion.
un effroyable attentat vient de jeter la consternation dans l'État de Californie et de mettre en deuil la famille d'un de nos honorables concitoyens, M. William Dorgan. Son plus jeune fils, Joey, a disparu dans des circonstances tragiques et tout porte à croire qu'il a été victime des bandits de la Main Rouge. M. Joey Dorgan, qui, bien qu'âgé seulement de 26 ans, a déjà fait preuve de brillantes qualités d'administrateur et de financier, avait été chargé par son père de recouvrer des sommes importantes dues par les fermiers des immenses domaines que possède le milliardaire dans la province de Californie. Cette région offre encore des parties entièrement désertiques, privées de routes et de chemins de fer, et où les services publics ne sont encore organisés que de la façon la plus défectueuse. M. Joey Dorgan, qui avait terminé heureusement sa tournée, revenait avec son escorte composée de 12 policemen à cheval. L'argent recueilli se trouvait dans un des robustes chariots qui seuls peuvent circuler par les chemins rocailleux de la Sierra. C'est en traversant un défilé que les orages en ces temps derniers avaient rendu presque impraticable que le convoi fut attaqué. Des cow-boys qui se rendaient à une des foires de la région ont retrouvé les cadavres atrocement mutilés des 12 policiers près du chariot défoncé et des chevaux éventrés. Détail horrible, chaque cadavre portait sur la joue l'empreinte d'une main grossièrement dessinée avec du sang. Les bandits de la Main Rouge avaient laissé leur sinistre estampille. Malgré toutes les recherches, le corps du malheureux Joe Dorgan n'a pu être retrouvé. On ose espérer qu'il ait été fait prisonnier. On suppose que les Trumps auront précipité son cadavre dans un des gouffres de la Sierra. Un corps de police monté fait en ce moment une battue dans ces régions désertiques. Mais jusqu'ici, toutes les recherches n'ont abouti qu'à découvrir, dans un ravin sauvage nommé le Black Canyon, un des repères de la bande tragique où se trouvaient en abondance des armes, des munitions et des provisions de toutes sortes. La chasse aux bandits continue, dirigée avec une activité infatigable par l'ingénieur Harry Dorgan, le frère de la victime, immédiatement accouru sur les lieux. Nous profitons de cette occasion pour donner quelques détails sur la Main Rouge, cette vaste association de malfaiteurs qui, depuis plusieurs années déjà, terrorise les États de l'Ouest et du centre de l'Union. La Main Rouge, puissamment organisée et possédant, assure-t-on, des ramifications dans le monde entier, n'a qu'une ressemblance de nom avec la célèbre association italienne. Ceux qui la composent sont presque tous de nationalité américaine, allemande ou irlandaise. Elle compte dans ses rangs des alliés appartenant à toutes les classes de la société et, paraît-il, même des banquiers, des négociants, des médecins, des officiers et jusqu'à des chefs de la police de nos grandes cités. C'est ce qui explique l'impunité inconcevable dont ont bénéficié jusqu'ici la plupart de ses membres. Tous les efforts tentés pour exterminer ces misérables ont piteusement échoué. Mais véritablement, la mesure est comble. L'attentat que nous venons de relater, et qui dépasse tous les autres en audace et en horreur, doit ouvrir les yeux au pouvoir public. Nous espérons qu'une loi spéciale va être votée par le Sénat de Washington et que des crédits extraordinaires vont être mis à la disposition de la direction de la police pour traquer dans leurs repères les affiliés de la Main Rouge.